Bonjour, frères et sœurs. Dans toutes les civilisations sur la Terre, même à toutes les époques, les historiens le confirment, et on le voit encore aujourd'hui, les hommes ont inventé toutes sortes de religions pour répondre, entre autres, aux questions existentielles qu'ils ont. Donc, d'où est-ce qu'on vient? Qui sommes-nous? Pourquoi il y a des choses qui sont vraiment plus puissantes que nous, les éléments de la nature qui sont plus forts que les êtres humains? Pourquoi, éventuellement, on finit par mourir? Et aussi pour répondre au besoin de trouver une solution au mal dans le monde. Parce que le mal sous toutes ses formes, entre autres par la guerre, lorsqu'il y a une guerre, il y a beaucoup de morts qui s'ensuit. Lorsqu'il y a un tremblement de terre, il y a beaucoup de morts. Lorsqu'il y a une peste, une épidémie comme celle que nous vivons présentement, il y a beaucoup de morts. Et c'est un grand mal. Mais on se rend compte que le mal n'est pas seulement présent dans les choses que l'on subit, mais il est présent dans notre cœur. Ce qui explique, puis on le sait intuitivement, là, que c'est la cause du mal dans le monde et que finalement, on partage tous le même sort, c'est qu'on va tous passer par la mort, on va tous mourir. Et ça, les hommes, qu'ils croient à un créateur ou non, ben, ils n'ont pas le choix d'admettre, d'avouer que nous allons tous passer par la mort. Et les gens se sont inventés des religions, des croyances. Même s'ils ne croient pas en un Dieu, ils mettent leur foi en quelque chose, dans l'espoir de peut-être s'en sortir. Parce qu'il n'y a plus aucun espoir, là, les gens vont peut-être se suicider ou sombrer vraiment dans la consommation pour essayer de trouver des échappatoires pour ne pas voir la réalité en face. Et que nous allons tous mourir, mais finalement, toutes les tentatives, toutes les religions qui ont été créées, inventées par les hommes, sont un échec, puisqu'elles ne changent pas la destinée. Comme dit l'Ecclésiaste, tout ça, c'est une vanité. Même ceux qui essaient de trouver une solution par la sagesse, par la connaissance, font beaucoup d'études, et ils vont finir par mourir comme celui qui n'a pas d'instruction. Ceux qui cherchent une solution en accumulant des richesses vont finir par mourir comme ceux qui sont pauvres. Ceux qui ont accompli des grandes œuvres pour améliorer le sort de l'humanité vont finir par mourir comme les criminels. Finalement, on partage tous le même destin et une solution provenant de l'homme est impossible. Hier, je regardais un poisson rouge qu'on a chez nous, un poisson bleu dans un petit bocal. Il n'y a pas un grand parcours à faire pendant la journée, là. Mais si on ne le nourrit pas, il va mourir. Il est vraiment dépendant. Et si tout à coup il saute en bas du bocal, là, bien, si on n'est pas là pour le remettre dans l'eau, il va mourir. Vraiment, il est impuissant, puis de toute façon, un jour ou l'autre, il va finir par mourir, mais par lui-même, il n'y a pas de solution, là. Il est vraiment dépendant d'un être extérieur, nous. Pour lui, on est presque des dieux pour le poisson. Mais l'humanité a besoin justement du Créateur, que la solution vienne de Dieu. Et c'est ce que la Bible présente. Le plan pour sauver l'humanité n'est pas une invention des chrétiens, n'est pas une invention de ceux qui ont écrit la Bible même. C'est un plan qui est donné par Dieu lui-même. On l'a vu ce matin par les chants, qu'on veut célébrer Dieu, on veut même le proclamer à toutes les nations, parce que c'est Dieu qui est digne d'être loué, c'est pas un système inventé par les hommes, c'est pas une religion, c'est vraiment le Dieu Créateur qui est venu intervenir pour nous sauver. Et on va lire ce matin un passage dans le livre des Actes et on est rendu dans le premier voyage missionnaire de Paul et Barnabas. Et lors de ce premier voyage missionnaire, on arrive à un premier discours. Enfin, on a une première prédication de Paul, un exemple de ce qu'il prêchait dans les synagogues et à toute personne qu'il rencontrait. Donc, on est dans Actes 13 et on va étudier aujourd'hui les versets 13 à 48. Donc, il y a la semaine passée ou il y a deux semaines, je perds le fil, là. Notre dernière étude dans Actes, il y a deux semaines, c'était des chapitres 13, versets 1 à 13, maintenant on continue. 1 à 12, maintenant on continue, verset 13. Donc, Actes 13, 13. De Paphos, Paul et ses compagnons firent voile pour se rendre à Perge en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. De Perge, ils poursuivirent leur route et ils arrivèrent à Antioche de Pisidie. Ils entrèrent dans la synagogue le jour du sabbat et ils s'assirent. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire, « Frères, si vous avez quelques paroles d'exhortation pour le peuple, allez-y, parlez. » Paul se leva, il fit un signe de la main et il dit, « Vous, Israélites, et vous aussi qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple, d'Israël, a choisi nos pères et il a fait grandir ce peuple pendant son séjour au pays d'Égypte. Puis, il en a fait sortir par son bras puissant. Il les supporta environ 40 ans dans le désert. Après avoir exterminé 7 nations au pays de Canaan, il les mit en possession de leur territoire. Ce qui dura environ 450 ans. Après cela, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Puis ils demandèrent un roi, et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Après l'avoir écarté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage : « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, un homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » C'est de sa descendance que Dieu, selon sa promesse, a fait naître Jésus comme sauveur pour Israël. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de la repentance à tout le peuple d'Israël. Et lorsque Jean achevait sa course, il disait, « Je ne suis pas, moi, ce que vous supposez. » Donc, je ne suis pas le Messie. « Mais voici, il vient après moi, celui dont je ne suis même pas digne de détacher la sandale de ses pieds. » Frères, vous, les fils de la race d'Abraham, et ceux qui parmi vous craignent Dieu, c'est à nous que cette parole de salut a été envoyée, car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus, ainsi que les paroles des prophètes qui sont lues pourtant à chaque sabbat. Et ils les ont accomplies en le jugeant. Sans trouver aucun motif de condamnation à mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Ils accomplirent ainsi tout ce qui est écrit de lui. Ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un tombeau. Mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il a été vu pendant de nombreux jours par ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous, nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit au psaume 2, « Tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. » Et qu'il est ressuscité d'entre les morts, de sorte qu'il ne retourne pas à la corruption, c'est ce qu'il avait dit. Je vous donnerai les choses saintes de David, celles qui sont dignes de foi. En conséquence, il dit ailleurs, tu ne laisseras pas ton saint voir la corruption. Or, David, après avoir dans sa génération servi les desseins de Dieu, il est décédé. Il a été réuni avec ses pères, il a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Vous donc, frères, sachez-le bien, par lui, le pardon des péchés vous est annoncé. Et en lui, quiconque croit est justifié de tout ce dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Ainsi, prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Voyez, vous qui êtes pleins de mépris, soyez étonnés et disparaissez. Car je veux faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. À leur sortie, on les invitait à parler de ce sujet le sabbat suivant. Et à l'issue de la réunion, beaucoup de Juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretenaient avec eux, et les persuadaient de rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville s'assembla pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant les foules, furent remplis de jalousie. Ils les contredisaient avec des blasphèmes ce que disait Paul. Paul et Barnabas leur dirent alors ouvertement, « C'est à vous d'abord que la parole de Dieu devait être annoncée, mais puisque vous la repoussez, que vous ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, voici nous nous tournons vers les païens. » Car ainsi nous l'a prescrit le Seigneur, je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Amen. On va continuer la semaine prochaine. Donc on a ici un exemple, un résumé, sûrement que Paul a peut-être parlé un peu plus longuement que cela, mais c'est un résumé finalement du premier sermon. En tout cas, c'est le premier sermon qui nous est rapporté dans le livre des Actes, le premier sermon de Paul. Donc, on doit comprendre que toutes les autres fois où il est mentionné qu'il est allé évangéliser dans une synagogue, c'est le genre de sermon qu'il donnait, le genre de discours qu'il enseignait, qui ressemble beaucoup d'ailleurs aux épîtres qu'il a écrits plus tard, comme à l'épître aux Romains, l'épître aux Galates. D'ailleurs, il se trouve chez les Galates, là, en Galatie, lorsqu'il est à Antioche et plus tard dans Iconium, à Lystre. C'est une présentation claire de l'Évangile et il l'appelle la bonne nouvelle. C'est cette bonne nouvelle-là qu'il annonce au verset 32. Il dit que c'est la bonne nouvelle que enfin Dieu accomplit, il a accompli la promesse qu'il avait faite au Père même, au Père de cette génération, pour sauver le peuple. Et on comprend que finalement le but c'est de sauver toute l'humanité. Donc ici, ce n'est pas une simple exhortation doctrinale, ce n'est pas un simple exposé théologique que Paul fait. Il interpelle directement ses auditeurs. Ils n'étaient pas habitués à cela, eux autres. Ils partageaient des textes, ils lisaient la loi de Moïse, ils lisaient les prophètes. Ensuite, ils débattaient sur des termes, ils débattaient sur les commentaires qui avaient été écrits sur ces lois, sur ces prophètes, ces prophéties. Et là, ici, Paul s'adresse à l'Assemblée en les interpellant. À trois reprises même, il s'adresse à eux en leur disant, « Israélites, vous qui craignez Dieu, frères, écoutez. » Donc, à trois reprises, il s'adresse à eux. Puis, on peut comprendre que son discours peut être séparé justement en trois parties. C'est trois aspects de cette bonne nouvelle qu'il enseigne. Trois aspects de l'Évangile, du plan de Dieu pour sauver l'humanité, qu'on peut appeler le plan du salut de Dieu. Un premier aspect qu'on va voir, c'est que Dieu accomplit lui-même son plan de salut. Non seulement c'est lui qui l'a mijoté, ce plan-là, mais c'est lui-même qui l'accomplit dans toutes ses étapes. Deuxièmement, Dieu révèle son plan. Il n'agit pas en cachette. Les étapes de son plan sont révélées, clairement révélées. Et troisièmement, il demande justement qu'on croie à ce plan-là, qu'on mette notre confiance en lui. Il veut qu'on reçoive cette révélation de son plan avec foi et qu'on croit que c'est vrai. Et c'est par là justement qu'on est sauvé. Donc c'est un plan de salut qui est révélé et qui permet à ceux qui y croient d'être sauvés. Mais on va le voir plus en détail. Donc, on s'attend premièrement au discours de Paul, mais on va voir que dans le passage, dans cet épisode-là, dans la vie de Paul et de Barnabas, c'est justement ce qui se passe. Ils sont un exemple vivant du plan de salut en œuvre. Mais on va commencer par regarder son discours lui-même, des versets 16 à 25, la première partie. Premièrement, ce qui nous saute aux yeux, versets 16 à 25, c'est comme un résumé de l'histoire d'Israël. On sait que le père de la nation d'Israël, c'est Abraham, qui a eu un fils, Isaac, Jacob, et les 12 fils de Jacob deviennent les pères des 12 tribus. Ils ont séjourné un temps en Égypte, ensuite ils ont séjourné dans le désert pour ensuite entrer en Canaan, qu'ils ont conquis. Ils ont eu des juges qui les ont dirigés, des prophètes. Bien, lorsque Samuel est venu, ça a comme inauguré un ère des prophètes. En même temps, ça a inauguré un ère des rois, puisqu'ils ont eu Saül, David, ensuite Salomon et toute une série de rois. Mais ce qui saute aux yeux ici, c'est que Paul ne rapporte pas l'histoire d'Israël comme le ferait un historien. Même un historien qui voudrait résumer là, en quelques lignes dans un paragraphe ne le présenterait certainement pas de la façon dont Paul le présente. Qu'est-ce qui est particulier ici, de la manière dont Paul le présente, c'est que le sujet principal, le sujet des actions, ce n'est pas Israël. Il y a beaucoup de verbes qui sont présentés ici, et à chaque fois, le sujet, c'est Dieu. Dieu choisit Abraham, Isaac et Jacob, donc il a choisi les pères, il fait grandir le peuple, ce n'est pas simplement le peuple qui s'accroît, c'est Dieu qui le fait grandir. Dieu fait sortir par son bras puissant d'Égypte. Dieu les supporte pendant 40 ans dans le désert. C'est Dieu qui extermine 7 nations dans le pays de Canaan pour leur donner le pays. C'est Dieu qui les met en possession de ce territoire-là. Après, c'est Dieu qui leur donne des juges. Donc, c'est Dieu même qui suscite les juges pour les libérer des agresseurs et les ramener à la foi, à la repentance. Deux fois même, c'est indiqué qu'il leur donne. Il leur donne aussi Saül, un roi, lorsqu'il le demande, pendant 40 ans. Mais c'est un roi qui, finalement, n'accomplit pas la volonté de Dieu et Dieu l'écarte. Ce n'est pas juste les événements qui font en sorte que Saül n'est plus roi, c'est vraiment Dieu qui l'écarte. Et c'est Dieu qui suscite David. Il l'a choisi parce qu'il a vu son cœur. Et s'il approuve David comme un homme selon son cœur, c'est parce que David va accomplir sa volonté. Donc même toutes les œuvres de David dans sa vie, finalement, sont le fruit de son obéissance à Dieu. Donc c'est les œuvres de Dieu. Et c'est de la descendance de David que Dieu fait naître le Sauveur Jésus, le Sauveur pour Israël. Donc on voit vraiment un plan là où c'est Dieu qui est à l'œuvre dans toutes ces étapes. C'est Dieu qui choisit ceux qui l'utilisent pour sauver son peuple, qui va devenir le salut de toute l'humanité. Donc c'est Dieu qui choisit les acteurs qui l'utilisent pour sauver son peuple. Ici, ce n'est pas mentionné, mais c'est Dieu qui a choisi Moïse pour faire sortir son peuple d'Égypte. Il a choisi plusieurs personnes, comme on lit dans l'Ancien Testament. Il y a des femmes aussi qui ont joué un rôle important dans le salut d'Israël. Il les choisit, ceux qui vont jouer un rôle pour sauver, et il choisit aussi ceux qui sont sauvés. Il a choisi Israël comme nation pour qu'Israël soit son peuple à lui et que l'Éternel soit son Dieu. Donc, c'est lui qui a choisi Israël pour le sauver, même si certains d'entre eux n'ont pas cru en Dieu et finalement n'ont pas été sauvés. Ils ont été condamnés, mais ils ont été le peuple élu de Dieu que Dieu a choisi. Et c'est Dieu qui a choisi Abraham, Jacob, ses 12 fils pour être père des 12 tribus, sans qu'on ne sache trop pourquoi, quelle est la raison. Lorsqu'on regarde en particulier la vie de Jacob, c'est pas nécessairement un exemple à suivre là, dans toutes ses décisions. Ensuite, il a choisi Israël comme peuple, tous les descendants, et le séjour dans le désert là, de 40 ans nous rappelle qu'il n'était pas un peuple meilleur que les autres. Et même Dieu dit, si je vous ai choisi, là, c'est par amour pour vos pères, parce que vous n'êtes pas un peuple meilleur que les autres, au contraire, vous êtes un peuple rebelle. Mais il les a quand même choisis dans sa souveraineté. Et il a suscité pour eux des juges, des prophètes, des rois. Certains des hommes qu'il a suscités ont été de bons serviteurs, mais certains ont été de mauvais conducteurs pour son peuple, comme le roi Saül. Pourtant, c'est Dieu qui l'a choisi. Il leur a donné un roi comme il voulait. Ils ont voulu avoir un roi comme les autres peuples, un roi qui allait les mener au combat, dont il allait être fier, un roi qui serait orgueilleux, qui cherche la richesse. Et Dieu leur a donné un roi comme il voulait, mais finalement qui n'a pas servi, qui n'a pas obéi à la volonté de Dieu, et Dieu l'a écarté. Mais on se rend compte que même un conducteur mauvais comme Saül a servi le plan de Dieu. C'était voulu par Dieu. Donc il y a eu des bons serviteurs et des mauvais. Mais dans tous les cas, ceux que Dieu a suscités, a désignés pour jouer un rôle dans cette histoire-là, ont servi la volonté de Dieu, ont accompli la volonté de Dieu, même parfois sans le savoir. Et tout ça, c'était pour qu'un jour, un bon roi arrive, David, et que Dieu lui fasse une promesse, une alliance, qu'un jour, un de ses descendants recevrait le trône, mais un trône éternel. Et c'est Dieu qui a fait naître son élu, son fils, son serviteur pour être le sauveur d'Israël. Et même Paul revient un peu en arrière pour dire ce Jésus-là qui est né comme sauveur, on a même une confirmation qui me fait hors de tout doute que c'est vraiment Jésus, parce que Dieu a envoyé le prophète qu'on attendait, le dernier prophète pour préparer sa venue, c'est Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste a dit, je ne suis pas celui que vous attendez. Mais il arrive là, et je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses sandales, d'enlever ses sandales de ses pieds. Donc, Dieu a suscité un prophète pour annoncer ce plan-là et conduire le peuple à la repentance et conduire le peuple à prendre conscience qu'ils avaient besoin d'être sauvés. Donc, Dieu est l'acteur principal là, de toutes les étapes. Et la venue de Jean-Baptiste amène justement le deuxième point, le deuxième aspect de l'Évangile, c'est que Dieu le révèle. À chaque étape, il révèle quelle est sa volonté. Il révèle son plan de salut. Et ce que Jean-Baptiste a prêché, on le lit dans les Évangiles, c'est vraiment clair, là. Jésus vient, il vient même pour mourir pour le peuple, c'est l'agneau de Dieu qui va être sacrifié pour ôter les péchés du peuple, là, ôter les péchés du monde, pour sauver le monde, donner la vie éternelle. Donc c'est vraiment clair, donc Dieu a révélé son plan de manière très claire. On lit dans Amos, chapitre 3, verset 7, « Ainsi le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs. » Les prophètes. L'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc, son plan de salut est clairement révélé. C'est sûr qu'il ne nous révèle pas tous les détails de la vie de toutes les personnes. Ça dépasserait notre compréhension. Mais il nous révèle toutes les grandes lignes, les grandes étapes pour que l'on comprenne son plan, tout ce qu'on a besoin de savoir finalement pour être sauvé. Et comment il sauve? C'est par la prédication de sa parole. Comme ce qu'on vient de chanter, là, ta parole est une lampe à mes pieds, mais c'est vraiment une lampe à nos pieds qui évite qu'on tombe dans le précipice, mais qui nous conduit vers la vie. Donc, c'est même cette bonne nouvelle-là du salut, elle est appelée la parole de salut. La parole de salut, donc ce qui vient vraiment de Dieu, ce qui nous est révélé, est envoyé dans le monde. Et si elle est ce jour-là, prêché à Antioche de Pisidie, mais Paul dit que c'est surprenant puisque c'est en territoire païen, mais c'est parce qu'elle a été rejetée d'abord à Jérusalem. La parole de Dieu, la parole qui annonce le salut, a été rejetée à Jérusalem. Les Juifs, en particulier leurs chefs religieux, on l'a vu quand on étudiait l'Évangile de Luc, ils ont rejeté Jésus, ils ont rejeté la parole, la bonne nouvelle qu'il annonçait. Jésus annonçait la repentance et la bonne nouvelle qu'on peut avoir, la vie éternelle. Mais les Juifs l'ont rejeté, n'ont pas reconnu que Jésus est le Messie, venu apporter la parole de Dieu. Même, on apprend par l'Évangile de Jean que Jésus, c'est la parole incarnée. C'est le message même de fait chair, le message du salut de Dieu. Ils n'ont pas reconnu, pourtant, ils n'ont pas d'excuse. Et c'est prophétisé dans les écrits de l'Ancien Testament, qu'ils lisent pourtant à chaque sabbat. C'est ça que Paul n'en revient pas, puis il leur dit, là. Ils l'ont rejeté, et c'était pas parce qu'ils ne pouvaient pas le savoir que c'était lui. De toute façon, il l'a prouvé devant eux, mais c'est même annoncé dans les prophètes de l'Ancien Testament. Ils ne s'en rendaient pas compte, mais eux-mêmes étaient des acteurs dans ce plan du salut de Dieu, et leur méchanceté envers Jésus, finalement, accomplissait tout ce qui avait été prophétisé à l'avance. Ils l'ont fait mourir comme un criminel, ils l'ont jugé injustement, ils ont fait mourir un innocent, comme c'est prophétisé dans l'Ancien Testament, entre autres dans Ésaïe 53. Ils l'ont fait descendre du bois, parce que celui qui est sur le bois, c'est une malédiction, il ne fallait pas qu'il s'en reste là pour la Pâque. Ils l'ont fait descendre, ils l'ont mis dans un tombeau. On lit ça aussi dans Ésaïe 53. Donc, en faisant toutes ces actions-là, ils ne se rendaient pas compte, mais ils accomplissaient toutes les prophéties. Finalement, ils ont été des instruments choisis par Dieu pour accomplir son plan. C'était une mauvaise œuvre qu'ils ont faite, c'est sûr, une œuvre effroyable, mais qui était nécessaire. Le Messie devait mourir pour payer le prix de nos péchés. Ça ne veut pas dire que Dieu approuvait cela. Même si ça servait son plan, le plan décrété à l'avance. Et Dieu est intervenu comme en opposition directe à eux. Et c'est tout un affront pour eux, mais il l'a ressuscité. Il dit, ah oui, vous voulez faire mourir mon oin, mon élu, mais je le ressuscite. Il l'a ressuscité des morts. Et de nombreux disciples l'ont vu. Même Paul dit, tous les disciples qui étaient montés de la Galilée jusqu'à Jérusalem, qui l'avaient suivi jusqu'à Jérusalem, qui ont été témoins de sa mort, qui étaient découragés. Après, ils l'ont vu vivant, puis ils sont devenus ses témoins. Et ils l'annoncent partout. Et c'est justement la bonne nouvelle que Paul leur annonce, que Jésus est ressuscité. C'est ça la bonne nouvelle finalement, c'est que Jésus est vivant. Et pourquoi il leur dit que c'est une bonne nouvelle? Parce que c'est l'accomplissement de la promesse annoncée à l'avance par les prophètes. Donc, c'est ce qu'ils attendaient, finalement. Et ils l'ont lu là, à chaque sabbat, de différentes manières, dans les écrits de l'Ancien Testament. Ils l'ont chanté dans les psaumes. Ils l'ont lu dans la loi, même en remontant jusqu'à Genèse. Et jusqu'au prophète, ils attendaient ce jour-là. Puis finalement, Paul leur dit, c'est une bonne nouvelle. Jésus l'a accompli, il a ressuscité son Messie. Entre autres, au psaume 2, et Paul donne comme exemple le psaume 2. C'est intéressant de voir que même à l'époque de Paul, les psaumes avaient des numéros, les mêmes que les nôtres. Au psaume 2, on lit « Tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. » Ça peut sonner étrange que Paul utilise cette citation-là pour dire que Jésus est ressuscité. Déjà, Jésus avait été déclaré fils de Dieu, on le voit dans le livre de l'Évangile de Luc, parce qu'il est né d'une vierge et que c'est le Saint-Esprit qui l'a engendré. Et Luc dit que c'est pour ça qu'il est appelé fils de Dieu. Mais c'est à sa résurrection qu'il a été déclaré par le Saint-Esprit de manière glorieuse, le fils de Dieu au-dessus de toute autorité. C'est là qu'il a été déclaré avec gloire, fils de Dieu. On lit d'ailleurs, c'est Paul qui le dit dans son introduction dans l'Épître aux Romains. Donc l'Épître aux Romains commence comme ça. « Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être apôtre, mis à part pour l'Évangile de Dieu. Cet Évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes. » Donc l'Évangile, c'est la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle-là, Dieu l'avait promis auparavant pour ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son Fils, né de la descendance de David, selon la chair, mais déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est vraiment la résurrection de Jésus qui était éclatante et c'est ça la plus grande nouvelle. C'est sûr qu'il doit mourir et on célèbre souvent, on répète souvent que la mort de Jésus nous a délivrés de nos péchés, mais si Jésus n'était pas ressuscité, il n'y aurait pas de bonne nouvelle. La foi chrétienne ne servirait à rien et elle serait un échec comme toutes les tentatives de religion dans le monde. Si finalement le plan, l'œuvre de Dieu peut être un succès pour nous, il peut réellement nous sauver, c'est parce que Jésus est ressuscité, c'est parce qu'il est vivant. Pourquoi? Mais Paul enchaîne en disant, il cite Ésaïe 55, Dieu promet à son peuple, et c'est longtemps après David là, mais Dieu promet, je vous donnerai les grâces ou les choses saintes de David, celles qui sont dignes de foi, c'est-à-dire celles qui sont assurées. Il y a différentes manières de le traduire, mais on pourrait, en d'autres mots, ce que Dieu promet, c'est je vous donnerai les grâces saintes, celles qui sont assurées, qui ont été promises à David. Lorsqu'il a fait alliance avec David, il lui a promis, et c'est exprimé dans plusieurs psaumes, qu'est-ce qu'il lui a promis? Mais entre autres, et la chose la plus importante, c'est au psaume 16, on le lit, et c'est David qui l'exprime, « Tu ne laisseras pas ton saint voir la corruption, ou ton bien-aimé voir la corruption. Tu ne le laisseras pas pourrir dans le séjour des morts, tu ne le laisseras pas retourner à la poussière de la terre. » Pourtant, David est mort. Il est retourné à la poussière, comme tous les hommes. Lui aussi, il a subi cette malédiction à cause du péché. Donc, comment Dieu a pu promettre une telle chose à David? Et même, finalement, tout le peuple chantait ce psaume-là aussi. Là. Il espérait connaître, bénéficier de cette même promesse que Dieu avait faite à David. Et arrive en Ésaïe 55, où Dieu promet à son peuple qu'il va leur donner cela. Mais en fait, c'est qu'il est en train d'annoncer l'accomplissement par le fils de David, un descendant de David. Donc c'est avec Jésus, son descendant, que Dieu a accompli sa promesse. Jésus est mort, il a été enseveli, mais il n'a pas vu la corruption. Ici, on ne parle pas de la corruption du péché, on parle vraiment de la corruption de la chair, que la chair pourrit dans le tombeau et retourne à la poussière. Vraiment, comme Dieu avait condamné l'humanité, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Mais Jésus n'a pas connu cela. Son corps est resté intact, même aucun de ses os n'a été brisé. Il a repris vie, un corps glorifié. Et Jésus est vivant. Donc Dieu, en ressuscitant Jésus, il a accompli sa promesse. Pourquoi c'est une bonne nouvelle pour nous? Parce qu'il a promis de donner à son peuple cette même grâce qu'il a donnée au fils de David, aux descendants de David, qui ne connaîtraient pas la corruption, qui seraient ressuscités. Dieu a promis de donner cette même grâce-là. Bien sûr, on doit connaître la corruption, à moins que le Seigneur Jésus revienne de notre vivant. Mais il promet la résurrection. C'est ça le plan du salut de Dieu. Ce n'est pas juste une vie meilleure sur la terre. C'est qu'il va nous ressusciter avec Jésus pour une vie éternelle. C'est pour ça que la résurrection de Jésus est essentielle dans le message de l'Évangile. Si Jésus n'est pas vivant, il n'y a pas de bonne nouvelle. Celui qui dit qu'il croit en Jésus, qu'il croit en cette bonne nouvelle-là, c'est qu'il croit que Jésus est vivant. C'est vraiment essentiel. Il croit que Jésus est vraiment au ciel, à la droite de Dieu, qu'il est présent en esprit parmi nous réellement et qu'un jour, il va nous emmener avec lui. Il va nous ressusciter, nous emmener dans la maison de son Père. Donc, premièrement, on a vu que Dieu est celui qui accomplit son plan lui-même. C'est Dieu qui a fait naître Jésus, c'est Dieu qui l'a ressuscité. Et ce plan-là de salut, il le révèle par la bouche de ses prophètes. C'est écrit amplement dans l'Ancien Testament. Et c'est même enseigné ici par les apôtres. Donc, le ministère pour le salut, c'est encore une fois par la parole. Et troisièmement, par rapport au plan du salut, c'est que les hommes doivent l'accepter avec foi. C'est la condition pour être sauvé. La parole de Dieu doit être reçue avec foi. On doit croire au plan que Dieu a mis en place. Pourquoi c'est comme ça? On ne sait pas. C'est Dieu qui a voulu cela. Il veut qu'on mette notre confiance en lui. Sinon, on ne peut pas bénéficier du plan de salut de Dieu. L'invitation est directe. Quand Paul parle, à partir du verset 38, « Sachez-le bien. Prenez garde. Soyez sûr que c'est vrai. Vous devez reconnaître que vous avez besoin d'être pardonné de vos péchés. Sachez-le bien. Par lui, le pardon vous est annoncé, le pardon des péchés. C'est pas pour rien que Jean-Baptiste avait invité tout le peuple à la repentance. Ils devaient connaître et reconnaître qu'ils avaient besoin d'être sauvés. Comment on peut accepter le plan du salut de Dieu si on ne croit même pas qu'on a besoin d'être sauvés? Ce qu'il leur dit, c'est que grâce à la mort et à la résurrection de Jésus, c'est maintenant possible d'être justifié devant Dieu. C'est vraiment le thème de la justification que Paul reprend dans ses lettres par la suite, dans ses épîtres. C'est possible d'être déclaré juste, d'être reconnu juste devant Dieu et admis dans sa sainte présence, dans le royaume éternel, où il n'y aura plus jamais de mort, plus jamais de chair qui se corrompt, qui vieillit, qui se putréfie. Et ce que Paul rappelle, c'est que c'était impossible avant cela d'être reconnu juste par les œuvres de la loi. Et c'est ce que ces Juifs-là dans la synagogue tentaient de faire, probablement toute leur vie, en particulier les chefs religieux de la synagogue, ils tentaient d'être reconnus justes par Dieu en obéissant à la loi. Mais Paul leur rappelle, c'était impossible d'être justifié, d'être déclaré juste. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est impossible d'obéir à la loi parfaitement. Bon, finalement, la loi ne fait que démontrer, révéler notre cœur désobéissant et mauvais. Plus on connaît la volonté de Dieu, qui est exprimée et révélée dans la loi, plus est révélé notre cœur mauvais. Finalement, la loi condamne. Pas parce qu'elle est mauvaise, elle est bonne, la loi, c'est la volonté de Dieu, mais elle révèle à quel point les hommes sont incapables de la suivre et d'être déclarés justes. Donc, ça prenait vraiment un plan de sauvetage, parce que les hommes étaient voués à la perdition. Même le peuple d'Israël qui avait la loi entre les mains, s'ils mettaient leur confiance dans leurs propres efforts, ils étaient voués à être condamnés pour l'éternité. Donc, il fallait que Jésus vienne pour sauver les humains de leurs péchés. Mais Paul ajoute un point particulier, ce ne sont pas tous les hommes qui sont pardonnés et justifiés. Il dit, « Vous donc, frères, sachez-le bien, par lui, le pardon des péchés vous est annoncé. En lui, quiconque croit est justifié de tout ce que vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. » Oui, n'importe qui peut être justifié, mais seulement ceux qui croient. C'est ça la condition, finalement, d'avoir foi dans ce plan-là du salut de Dieu. C'est pour ça que la bonne nouvelle vient avec un avertissement sévère. Et Paul conclut avec un avertissement qu'on trouve dans Habacuc 1. « Voyez, vous qui êtes pleins de mépris, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. » Finalement, ce qu'il les avertit en utilisant les mots de l'Ancien Testament, c'est que si vous rejetez ce plan de salut-là que Dieu vous offre, ce qui vous attend, c'est la condamnation éternelle. Vous allez trouver devant Dieu coupable, et ce qui vous attend, c'est l'enfer, c'est la géhenne, c'est la colère de Dieu au jour du jugement. Donc Dieu, c'est lui-même qui accomplit son plan de salut. Il l'annonce, il le révèle, donc ça passe par la parole de Dieu pour pouvoir être sauvé. Et troisièmement, il faut qu'on reçoive cette parole-là par la foi. Il faut qu'on y croie. Dieu veut qu'on mette notre confiance en lui, qu'on l'honore en faisant cela et qu'on s'humilie. Et Dieu nous sauve. Il fait grâce aux humbles. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce discours-là, on le voit dans ce passage-là même, dans les actions de Paul et de Barnabas. Si on retourne au début du chapitre 13, qu'on a vu il y a deux semaines, on voit que c'est Dieu qui est l'acteur du salut. Même si Paul dit que le salut est maintenant accompli par Jésus, mais le salut doit être appliqué, donné aux hommes. Les hommes doivent être sauvés. C'est encore Dieu qui agit. Il n'a pas terminé son travail avec la venue de Jésus. La solution est complète, mais c'est encore Dieu qui travaille pour sauver le monde. Et c'est le Saint-Esprit qui choisit Barnabas et Saul qui sera plus tard appelé Paul. C'est le Saint-Esprit qui les désigne. Et finalement, l'Église les laisse partir. Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et qu'est-ce que c'est que leur mission? Bien, c'est de révéler au monde cette bonne nouvelle-là. Annoncer le plan du salut. On voit les deux premiers aspects, hein, du plan du salut. C'est Dieu qui désigne ses serviteurs et ça doit passer par la proclamation de la parole. C'est comme ça que Dieu sauve les hommes, par la proclamation de sa parole, de la bonne nouvelle. Puis on a vu comment ils ont été conduits par le Saint-Esprit. Ils sont d'abord allés sur l'île de Chypre, ils l'ont parcourue en entier. L'île de Chypre, on a été... Plusieurs d'entre nous, on s'est rappelé un peu où est-ce qu'elle est située à cause des explosions qu'il y a eu au Liban. C'est vraiment vis-à-vis le Liban, dans la mer Méditerranée. C'est de là que venait Barnabas, donc c'est naturel peut-être de commencer par là, mais le texte dit qu'ils sont envoyés par le Saint-Esprit. Donc on comprend que c'est le Saint-Esprit qui les a poussés à aller là en premier. Ils ont parcouru l'île de Chypre, allant de ville en village, et à chaque fois ils allaient dans les synagogues pour évangéliser, jusqu'à l'autre bout de l'île, à Paphos, et on a vu qu'ils ont eu... l'intercation avec un magicien. Mais c'est là que Sergius Paulus aussi s'est converti. Donc, il s'est passé beaucoup de choses et ça a dû prendre un certain temps, là, ce voyage sur l'île. Même si ce n'est pas indiqué le nombre de jours que ça a pris. Mais certainement des semaines, peut-être des mois. Et avec eux, dans ce voyage-là, se trouvait Marc, qui est ici appelé Jean ou Jean-Marc. C'était le cousin de Barnabas, qu'ils avaient amené avec eux de Jérusalem. Donc, le dernier voyage, Barnabas et Paul, à Jérusalem, mais lorsqu'ils sont retournés à Antioche, l'église mère qui les a envoyés en mission, mais ils ont amené avec eux le cousin de Barnabas, Jean, surnommé Marc. Mais alors que, dans le passage qu'on a lu ce matin, alors qu'ils s'apprêtent à quitter l'île de Chypre pour aller sur la côte nord, sur la rive nord de la mer Méditerranée, où ils vont aller dans la Galatie, mais finalement, Marc les délaisse, les quitte pour retourner à Jérusalem. Le texte ne dit pas pour quelle raison il les a quittés. Puis les commentateurs ont suggéré toutes sortes de raisons, toutes sortes d'hypothèses. Par exemple, que Marc n'était plus capable de supporter le fait qu'ils étaient en terre étrangère, en terre païenne, puis qu'il devait se rendre chez des païens, qu'il croisait souvent des païens. Bon, peut-être, parce que Marc était un habitant de Jérusalem, là, comme la ville sainte. Peut-être que ça le troublait. Peut-être qu'il ne pouvait pas supporter que Paul et Barnabas évangélisent aussi les païens, et pas seulement les juifs. D'autres disent que probablement que le voyage était trop difficile. C'était pas facile, la mission. Ils rencontraient de l'opposition régulièrement. Puis là, même physiquement, ils s'embarquaient pour un voyage qui était dur. Là, quand Paul décrit ses voyages plus tard dans ses lettres, on voit que c'était souffrant. D'ailleurs, lorsqu'ils atteignent c'était prévu qu'ils atteignent la côte nord de la mer Méditerranée, pour se rendre à l'autre ville appelée Antioche, près de Pisidie, ils devaient parcourir 180 km dans les terres, et c'est une région montagneuse. D'ailleurs, Antioche se situe à plus de 1000 mètres au-dessus du niveau de la mer, donc c'est un voyage pénible à pied. Et certains disent probablement que Marc, qui était jeune à l'époque, a dit « Ah non, moi, je ne serais pas capable de faire ce voyage-là. » Et je m'en retourne à Jérusalem. En fait, on ne sait pas. Et je pense que c'est voulu que Luc ne nous dise pas la raison pourquoi il part, parce que ce n'est pas ça qui est important. Ce n'est pas ses motivations. C'est le fait qu'il les a abandonnés. Le fait qu'il les a délaissés. Que pendant leur mission, ils ont perdu un joueur. Ce qui est important de souligner, c'est qu'il les a abandonnés, ce qui est présenté de manière évidente comme une mauvaise chose. D'ailleurs, Paul, il ne l'a pas avalé. Et on va voir deux chapitres plus loin, au chapitre 15, que lorsque Barnabas va proposer à nouveau d'utiliser Marc, Paul ne sera pas d'accord. Il dit non, lui, là, il n'a pas été capable de tenir le coup dans notre premier voyage. Là. Il n'est pas question. Il ne va pas venir en mission avec nous. Et même, ça va faire en sorte de séparer Paul et Barnabas. On voit finalement que ce ne sont pas tous les serviteurs de Dieu qui sont de bons et fidèles serviteurs. Je crois ici que c'est voulu. C'est un exemple d'un quelqu'un au service de Dieu qui lâche, qui n'est pas fidèle. Mais pourtant, il y avait une raison. Pourquoi le Saint-Esprit a permis ça? Qu'il parte de l'Église mère, là, faire un voyage, servir dans l'île de Chypre, pour ensuite les délaisser. Il y avait un but à cela. Et je pense que c'est en observant le changement qu'on peut peut-être deviner le but, même si c'est juste une théorie, là, ma théorie personnelle. Le changement qu'on voit avant et après, c'est qu'avant, c'est Barnabas qui est le chef de mission. C'est lui qui est nommé en premier. C'est Barnabas qui avait été chercher Paul. Paul, finalement, s'est enjoint à Barnabas. Mais on sait pourtant que c'est à Paul que Jésus a confié la mission d'être le principal évangéliste chez les païens. Il devait se passer un shift. Là. Et après que Marc soit parti, qui était le cousin, la famille de Barnabas, le changement s'est opéré. Donc, comment c'est arrivé, pourquoi, je ne sais pas, mais je crois deviner que Dieu a permis l'abandon de Marc pour que finalement Paul devienne le premier. Par la suite, lorsque l'équipe est nommée, c'est toujours Paul et Barnabas. Celui qui parle en premier, c'est Paul. Celui qui développe les stratégies pour la mission, ça devient Paul. Si c'est exact, cette théorie-là, mais ça montre que même quelqu'un qui commet des fautes, des erreurs, c'est prévu dans le plan de Dieu et ça sert quand même le plan de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui dirige. Une chance que ça ne dépend pas de nous parce que l'œuvre d'évangélisation tomberait régulièrement. Concernant Marc, on ne sait pas si... À ce point-ci, dans le récit, quand on lit pour la première fois, on ne sait pas ce qui va y arriver. On peut supposer que peut-être qu'il a viré comme le roi Saül, qui a totalement abandonné la foi, qui a désobéi à Dieu, qui a renié son Dieu, qui a été écarté. Heureusement, ce n'est pas ce qui est arrivé avec Marc. On va apprendre plus tard qu'il va regagner la faveur de Paul, il va même redevenir précieux. Paul, lorsqu'il écrit à son protégé dans 2 Timothée, il écrit à Timothée, puis il demande à Timothée de venir le voir. Il dit dans 2 Timothée 4, « Luc, seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est fort utile pour le service. » C'est soulageant d'apprendre ça, que Marc, finalement, il a gagné en maturité spirituelle, il a pu être très utile pour servir Dieu. D'ailleurs, c'est ce Marc-là qui a écrit l'évangile de Marc. Donc, heureusement que Dieu l'a ramené à lui, puis l'a fait grandir dans la foi. C'est lui qui a écrit l'un des 4 évangiles, qui est très précieux pour nous. Donc là, Paul, accompagné de Barnabas, on va voir si c'est vraiment Paul qui prend la tête. Là. Il arrive à Antioche de Pisidie et ils évangélisent d'abord la synagogue, comme à leur habitude. Certains ont dit que c'était une stratégie d'évangélisation, mais je pense que c'est tout simplement parce que Israël, c'est le peuple choisi de Dieu et le salut de l'humanité passe par eux. Comme il dit dans Romains 1, verset 16, Je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec. » Donc, Paul va toujours, pendant tout le reste de son ministère, dans toutes les villes où il va, même lorsqu'il est à Rome, même lorsqu'il écrit aux Romains, d'ailleurs, c'est dans l'Épître aux Romains qu'il dit cela, il s'adresse aux Juifs en premier. Le plan du salut, le Messie leur a été envoyé à eux, puis aux Grecs. Et d'ailleurs, dans cette synagogue-là, il y a des Grecs, qu'on appelle des gens qui craignent Dieu, des craignants Dieu. Ils sont appelés aussi des prosélytes, un peu plus loin. Donc, c'est des gens qui ne sont pas d'origine juive, ne sont pas des descendants de chair d'Abraham, mais qui sont intéressés par la foi des Juifs. Et même, on voit qu'ici, qu'ils assistent à la synagogue, ils sont admis. Donc, ils sont reconnus comme étant des gens qui sont intéressés et qui croient le même Dieu, qui croient en l'Éternel. Et lorsqu'il leur enseigne ce discours-là, ils sont frappés. Autant les Juifs que les Grecs sont étonnés de cela. Puis à la fin de la synagogue, à la fin du culte, on peut dire, dans la synagogue, à la sortie, ils ont dit, il faut revenir la semaine prochaine pour parler de ça. Et ils continuent à discuter pendant le reste de la journée avec eux. Et Paul et Barnabas mettent beaucoup d'efforts à les persuader qu'ils doivent s'accrocher à la grâce de Dieu. Ils doivent renoncer à essayer de gagner leur ciel, si on peut dire, gagner leur entrée dans le royaume des cieux par les œuvres de la loi. Que par les œuvres, ils ne pourront pas être justifiés. Accrochez-vous à la grâce, là. Comprenez vraiment, c'est important. C'est intéressant, même lorsqu'on lit l'Épître aux Galates, c'est à eux, finalement, entre autres, que Paul écrit. Puis il dit, je m'étonne que vous soyez si rapidement détournés de cet évangile-là de la grâce pour retourner à la loi. Mais c'était une tendance là, normale parce qu'il... C'était tellement incrusté profondément dans leur esprit qu'on doit gagner notre place au ciel en obéissant à la loi, étant déclaré juste par nos œuvres. Mais là, ils semblaient avoir compris la grâce et Paul et Barnabas mettent tout leur effort là, pour les persuader de cela. Donc, ils sont à nouveau invités, mais on voit le troisième aspect du plan du salut qu'on a vu dans son discours, c'est que les gens doivent le recevoir avec foi. Là, c'est le... Lorsque Paul va revenir, là, c'est comme si ça passe ou ça casse pour ceux qui entendent son discours. Est-ce qu'ils vont croire ou non? S'ils croient, c'est qu'ils vont vraiment donner leur vie. Là. Ils vont vraiment s'attacher à cette grâce qui leur a été annoncée. Mais il semble que ça a porté du fruit, leur première prédication, parce que la semaine suivante, le sabbat, toute la ville, ou presque, est réunie. Il y avait du monde, là, sûrement qui n'ont pas pu entrer tous dans la synagogue, mais... Presque toute la ville s'est réunie et on comprend que c'était en très grande majorité des Grecs, des païens, c'était pas des Juifs. Donc là, les Juifs, tout à coup, ils ont été piqués là, au vif, ils étaient jaloux de la popularité de Paul et Barnabas, de ce message-là. Ils perdaient leur privilège en tant que seul représentant là, du peuple de Dieu. Peut-être jaloux même dans un bon sens du fait qu'ils étaient le peuple élu de Dieu et ils voulaient protéger ce qu'ils avaient comme précieux. Mais c'était malsain. Ils sont allés jusqu'à contredire Paul et Barnabas dans ce qu'ils disaient, jusqu'à même blasphémer contre Dieu. Donc, ils ont menti ouvertement à Dieu, au Saint-Esprit, pour essayer de préserver leur autorité, leur privilège. Ils sont devenus des ennemis, finalement. Et Paul leur déclare aux Juifs, donc on comprend que même si plusieurs d'entre eux avaient été intéressés, lorsque la foule est arrivée, la grande majorité des Juifs ont reculé et finalement ont rejeté le message de l'Évangile. Et Paul déclare, « Puisque vous rejetez la parole de salut qui vous est offerte, on se tourne là vers les païens. » Et il dit ça devant même les païens. D'ailleurs, Paul dit, « C'est la mission qu'on a reçue. Je t'ai établi pour être la lumière, pas la lumière seulement d'Israël, pour être la lumière des nations. » Pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. C'est la mission que Jésus avait confiée à Paul. Mais ce qui est étonnant, c'est que cette citation-là provient de l'Ancien Testament. Provient d'Ésaïe 49. Donc, c'était déjà prévu dans l'Ancien Testament que l'Évangile, oui, serait offert aux Juifs, mais finalement, serait pour le salut de toutes les nations. Et il lisait ça, il lisait Ésaïe à tous les jours de sabbat, mais il ne voulait pas l'entendre. Ce qui n'était pas évident, c'est que Dieu avait déjà décrété dans son plan qu'il choisissait le peuple d'Israël, cette génération-là, méchante, perverse, comme un instrument dans ses mains pour qu'il rejette l'Évangile et que l'Évangile, finalement, soit redirigé vers les païens. Donc, Dieu a utilisé de mauvais serviteurs, des serviteurs infidèles qui ont finalement été écartés, comme le roi Saül. Mais ils servaient le plan de Dieu. Donc, non seulement les Juifs à Jérusalem qui ont rejeté Jésus ont servi le plan de Dieu, mais les Juifs dans toutes les provinces de l'Empire romain qui ont rejeté systématiquement Jésus dans les synagogues ont servi ce même plan-là, qu'à chaque fois l'Évangile soit finalement dirigé vers les païens. Et finalement, jusqu'à aujourd'hui, c'est encore le cas. S'il y a des hommes et des femmes qui sont sauvés dans toutes les nations, c'est parce que le peuple d'Israël rejette le Messie encore aujourd'hui. La grande majorité des Juifs ne croient pas que le Messie qu'ils attendent, celui qu'ils chantent et qu'ils fêtent, bien, est déjà arrivé, c'est Jésus. Il est déjà venu, mais il rejette ce plan-là. Il rejette le plan de la justification par la foi en Jésus. Paul le dit dans Romains 11 que leur endurcissement, finalement, sert au salut des élus des autres nations. Et Paul nous avertit de ne pas avoir du mépris ou de regarder les Juifs avec une attitude hautaine, de penser qu'on est plus sage qu'eux, plus intelligent. C'est Dieu qui l'a voulu. Dieu a permis leur endurcissement pour que l'Évangile soit finalement envoyé à toutes les nations. Mais l'endurcissement des Israélites n'est pas total et définitif. Parce que Dieu dit qu'il n'a pas abandonné les descendants de sang, de chair d'Abraham, par amour pour Abraham, par amour pour leur père. Et il se garde un reste. Et on doit croire, selon la parole de Dieu, que depuis 2000 ans, depuis la venue de Jésus, il y a toujours eu des Juifs qui se sont convertis, même si c'est une minorité. Mais Dieu se garde un reste. Il y a des Juifs qui comprennent que le Messie qu'ils attendent, c'est Jésus, et qui sont sauvés de la même manière que nous. Mais le Paul dit, maintenant, on se tourne vers les païens. Ça va être eux, finalement, là, l'Église, l'Assemblée de Dieu. Ceux qui vont goûter à la grâce et qui vont hériter de la vie éternelle. Vous jugez même pas digne de la vie éternelle. C'est aux païens vers les païens qu'on se tourne. Et les païens sont tous émerveillés d'entendre cela. Ils glorifient la parole du Seigneur. Donc, ils ne glorifient pas Paul ou Barnabas, qui sont seulement des porte-paroles. Ils glorifient la parole du Seigneur. Vraiment, ils ont la réaction que Dieu veut, qu'on soit émerveillé par sa parole, par ce message, et qu'on y mette notre foi, et même qu'on veut le célébrer, le chanter, comme on l'a fait ce matin, et le propager. Mais Paul ajoute c'est Luc qui nous rapporte le récit, un détail intéressant. Le passage qu'on a lu se conclut en disant « Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. » Donc finalement, même dans le troisième aspect de l'Évangile où Dieu met en place son plan, ça c'est le premier, Dieu le révèle, et finalement Dieu veut qu'on croie à son plan, mais même dans le troisième aspect, c'est encore Dieu qui est au contrôle. C'est Dieu qui décide qui va croire, finalement. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Donc logiquement, ceux qui n'étaient pas destinés à la vie éternelle ne crurent pas. Comme Jésus dit, vous ne croyez pas parce que vous n'avez pas d'oreilles pour entendre, vous n'avez pas de yeux pour voir, vous n'êtes pas des brebis de ma bergerie. Mais tous ceux qui ont été destinés, qui étaient à l'avance destinés, choisis à l'avance par Dieu, ont cru. Ils ont accepté la parole avec foi. Et Dieu, étonnamment, a voulu que ça passe par l'endurcissement des Juifs, même à Antioche de Pisidie. Les païens, les Grecs ont été témoins de cela, que les Juifs eux-mêmes rejetaient l'Évangile. Ça a touché leur cœur et par leur endurcissement, ils ont goûté à la miséricorde de Dieu. Ils ont vu que Dieu leur faisait grâce, eux qui n'étaient pas des descendants d'Abraham, ils n'étaient pas les héritiers normaux des promesses de Dieu. Donc Dieu a choisi ce jour-là les Grecs, les païens, pour qu'ils croient en lui et il a endurci le cœur des Juifs qui n'ont pas cru. C'était son plan décrété. Mais on peut être sûr que c'est de la même façon que Dieu fonctionne encore aujourd'hui. C'est Dieu qui met en œuvre son plan du salut. C'est Dieu lui-même qui sauve. Donc, c'est une bonne chose de prier pour le salut des personnes qui nous entourent, le salut de nos compatriotes, le salut des autorités. Parce que c'est vraiment Dieu qui sauve. Si ce n'est pas Dieu qui sauvait, pourquoi on prendrait la peine de prier pour le salut? C'est Dieu qui sauve, c'est Dieu qui choisit ses serviteurs qui vont apporter la parole. Certains sont bons, certains sont mauvais, mais dans tous les cas, ça sert le plan de Dieu qu'il a décidé à l'avance. Son plan s'accomplit de toute manière. Et comment il sauve le monde? C'est pas par des miracles, c'est pas en apportant la prospérité, en guérissant, c'est par sa parole. Dieu a donné le ministère, le service de la parole aux chrétiens, le ministère de la réconciliation avec lui, et ça passe par la proclamation de la Bible, la proclamation de l'évangélisation, de l'Évangile. Donc Dieu révèle au monde son plan de salut. Finalement, on comprend que tout service pour Dieu, tout ministère pour Dieu, doit directement ou indirectement servir l'évangélisation. Même si notre rôle, c'est de faire le ménage, ça doit servir à l'évangélisation. Si notre rôle, c'est de donner de la nourriture à ceux qui sont mal pris, ça sert à l'évangélisation. Tout sert à cela, puisque c'est le plan du salut de Dieu qui est en œuvre. Et troisièmement, c'est encore le cas aujourd'hui, ceux qui sont sauvés, ça peut être des gens de toute nation, n'importe qui peut sauver, quiconque, mais seulement ceux qui croient, ceux qui mettent leur confiance dans la parole de Dieu, ceux qui restent attachés à la grâce en suivant Jésus jusqu'à la fin. Donc, vraiment, comprendre la grâce de Dieu, c'est pas seulement de savoir que nos péchés ont été pardonnés, mais c'est de compter sur lui tous les jours de notre vie jusqu'à la fin, de persévérer dans cette foi-là. Je sais que si je suis admis dans le royaume des cieux, si Dieu me voit comme juste, c'est pas parce que je suis un bon chrétien, c'est parce que Jésus est mort pour moi et que Dieu m'a fait grâce. Et tout cela, tous ceux qui croient, sont ceux que Dieu a choisis. C'est pas juste un exemple ici exceptionnel, c'est un modèle, c'est un pattern qui se répète toujours. Ceux qui sont destinés à la vie éternelle croient. Pourquoi c'est comme cela? Pourquoi il en est ainsi? On ne sait pas. On doit avouer que la sagesse de Dieu nous dépasse. Mais c'est tout à la gloire de Dieu. Jamais les hommes auraient pu inventer un plan comme cela et le mettre en œuvre. C'est vraiment le Créateur qui est venu sauver sa créature. En conclusion, on va lire la fin de l'épître, du chapitre 11 de Romains, versets 33 à 36. Paul dit « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse, de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Tout est de lui, par lui et pour lui. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. »